France Musique. Bienvenue sur France Musique et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. J'espère que vous êtes en forme pour le week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Ce matin, plusieurs rendez-vous, notre revue de presse à 8h20, l'information musicale de la semaine passée et de celle à venir. À 8h30, on retrouvera le clarinettiste Paul Meyer pour parler du festival Salon de Provence. Notre deuxième invitée du jour, elle est pianiste. Ludmila Berlinskaya nous présentera son festival La Clé des Portes. Ce sera à 8h40. Et à 8h52 pour La Petite Histoire, Eric Satie et les parapluies. Allez, on prend sa tasse de café et on profite du petit matin à l'écoute de la musique de Pablo de Sarasate. Et bien voilà, qui réveille le genre de musique qui donne la pêche pour la journée. C'était Romain Leleu et l'ensemble Convergence dans Zapateado de Pablo de Sarasate. Alors ce matin, vous vous réveillez peut-être près du château d'Ancy-le-Franc dans l'Yonne. Eh bien vous avez de la chance, car à quelques pas de chez vous, le festival Musique Ancy débute à partir de mardi. Pour assister au concert, il faut réserver en ligne sur le site du festival. Ça démarre donc mardi avec un concert de musique baroque avec l'ensemble Stagioni. Mais si vous préférez Mozart et Haydn par exemple, rendez-vous le 12 août pour entendre Victor-Julien Laferrière diriger l'orchestre des Amis de Brahms. Et oui, Victor-Julien Laferrière qui n'est pas que violoncelliste mais aussi parfois chef d'orchestre. Et le dimanche 23 août, ce sera tout autre chose. On entendra le trio de marimba SR9. Domenico Scarlatti revisité, on entendait la sonate en ré mineur Kirkpatrick 64. Et juste avant, c'était la courante de la suite numéro 4 en ré mineur HWV 437 de Handel. Le tout dans un arrangement pour trio de marimba par le trio SR9. Trio qui sera donc en concert le 23 août au château d'Ancier-le-Franc. On va rester encore un peu en Bourgogne, hasard du calendrier, car ce soir, c'est le premier jour du festival Les Nuits du Mont-Rhum à Saint-Cernin-du-Plain, et c'est jusqu'au 1er août. Là encore, une programmation variée. Parmi les artistes, le quatuor Modigliani le 28 juillet dans Schubert et Beethoven, ou encore le pianiste Simon Graeschi pour un récital le 30 juillet. Thank you. La musique de Schumann, on aime ça de bon matin. C'était un extrait des Kreisleriana, opus 16, par le pianiste Simon Greischi. 8h10, merci d'être avec nous sur France Musique. Et c'est l'heure de notre jeu. Alors là, on se concentre, car si vous répondez correctement, vous gagnerez peut-être Liberta, Mozart et l'Opéra, le dernier CD de l'ensemble Pygmalion, avec le chef Raphaël Pichon, la soprano Sabine Devielle ou encore la basse Nawel Di Piero. Tout le monde est appelé à tenter sa chance, car pour gagner, rien de très compliqué. Une question, trois réponses possibles, et cette question, la voici. Lequel de ces opéras n'a pas été écrit par Mozart? Je vous donne les titres en français. Réponse A, Bastien et Bastienne. Réponse B, La fausse ingénue. Réponse C, L'heureux stratagème. Je répète, lequel de ces opéras n'a pas été écrit par Mozart? Je vous donne les titres en français. Encore une fois, Bastien et Bastienne, La fausse ingénue, L'heureux stratagème. Vous avez jusqu'à la fin de l'émission pour nous envoyer votre réponse avec vos coordonnées à ne surtout pas oublier en cliquant sur l'onglet « Contactez-nous » de la page de notre émission sur notre site francemusique.fr. À vos claviers, jouez! Ah, on n'est jamais déçu par Mozart. Più non si trovano, c'était un quatuor vocal signé Mozart, donc avec Sabine Devielle, Serena Malfi, Lina Vrilink, John Chest, Raphaël Pichon et l'ensemble Pygmalion. Ensemble Pygmalion qui est en concert à Bordeaux jusqu'au 31 juillet dans le cadre du festival Pulsation, et il reste de la place, alors n'hésitez pas à réserver en ligne. Si vous avez prévu de sillonner les routes de Normandie cet été, vous croiserez peut-être Sébastien Dossé et quelques musiciens de son ensemble Correspondance. Jusqu'au 12 août, l'ensemble part en tournée à vélo à la rencontre du public, des enfants, avec un programme autour des musiques de voyage et de procession. Et pour l'occasion, Sébastien Dossé a même fait construire un brancard pour le petit orgue. Chaque début de concert sera joué en cortège avec le public depuis un arbre millénaire ou depuis un cimetière romantique. Et le chef l'assure, l'après-concert ressemblera à la dernière page d'Astérix. Bref, des concerts ambulants qui donnent très très envie à leurs chers auditeurs normands et même les autres. D'ailleurs, on y va. L'ouverture majestueuse du Concert Royal de la Nuit par Sébastien Dossé et l'ensemble Correspondance, une ouverture anonyme. Pour ceux qui sont en Charente-Maritime, en rentrant de la plage ou d'une promenade sur la côte, pourquoi n'iriez-vous pas assister au festival Un violon sur la ville ? Oui, il y a des petites chouettes derrière moi, c'est la suite du Concert Royal de la Nuit. Bref, donc ce festival Un violon sur la ville, une formule réinventée du festival Un violon sur le sable à Royan, ça démarre ce soir à 20h au théâtre du Fabarzan avec une soirée cinéma pour revivre les meilleurs moments du festival. Par contre, n'oubliez pas de réserver en ligne. Bien sûr, il y aura aussi des concerts, le festival dure jusqu'au 31 juillet. Par exemple, lundi, vous pourrez entendre la mezzo-soprano Catherine Trottmann à l'abbaye de Sablonceau. Thank you. C'est l'extase langoureuse, une mélodie de Claude Debussy par Catherine Trottmann et Alfredo Abbati. 8h22.
France Musique.
C'est l'heure de notre revue de presse. Tous les samedis, nous faisons le point sur l'actualité musicale de la semaine et des événements à venir. Dimanche dernier, nous avons appris la mort de Davinci à l'âge de 74 ans. Auteur, compositeur, interprète, producteur radiophonique sur France Musique et France Culture, il aura consacré sa vie à la musique et à la création. Le week-end dernier a aussi été marqué par l'incendie de la cathédrale de Nantes et la destruction du Grand Orgue. Michel Boursier, titulaire du Grand Orgue, a témoigné lundi dernier sur France Musique. Un témoignage à réécouter sur notre site francemusique.fr. À présent, une bonne nouvelle. Malgré la crise sanitaire, France Musique vient de terminer une saison record avec près d'1 million d'auditeurs quotidiens. Et les chiffres sur la vague mai-juin sont très encourageants avec 1,8% d'audience cumulée et 1,6% de part d'audience. Un grand, grand merci à vous, chers auditeurs. Et pour les fans de jazz, à ne surtout pas manquer la semaine prochaine après le festival Montpellier, France Musique rend cette fois-ci hommage au festival Jazz in Marciac, également touché par la crise du coronavirus. Ce sera du 27 juillet au 1er août, 4 heures tous les soirs avec Alex Dutille et ça démarre lundi avec un apéro-concert à la mémoire du saxophoniste Guy Lafitte. Voilà qui fait du bien de bon matin. I've got the world on a string par le saxophoniste Guy Lafitte, Géo Dali au vibraphone, Raymond Foll au piano, Jean Bonal à la guitare, Alix Bretz à la contrebasse et Peanuts Holland à la trompette. On le rappelle à 20h pendant toute la semaine prochaine sur France Musique. Soirée spéciale Jazz in Marsillac avec Alex Dutille. Il est 8h28. Merci d'être avec nous sur France Musique. Musique Matin, le 8-9 de Charlotte Landru-Chandès. France Musique, c'est l'été. Et on retrouve le clarinettiste Paul Meyer pour parler du Festival international de musique de chambre de Salon de Provence. Bonjour Paul Meyer.
Bonjour.
Alors, vous êtes l'exception qui confirme la règle. Vous avez réussi à maintenir votre festival tel qu'il était prévu. Alors, est-ce que cela a été compliqué ?
Alors, en fait, c'est une longue histoire parce que quand le Covid est arrivé, tous ces problèmes sont venus. Nous avons toujours espéré de pouvoir faire le festival. On s'est dit, bon, voilà, 2-3 mois quand même, bon, ça devrait aller, etc. Et on est toujours resté sur l'idée de continuer le festival tel qu'il avait été prévu, parce que nous sommes aussi en extérieur, des jours dehors, donc on s'est dit, on devrait pouvoir garder les programmes plus ou moins, etc., avec bien sûr des inquiétudes, de savoir si les musiciens pourrait voyager, si on pourrait garder les mêmes programmes, si les conditions sanitaires, les restrictions sanitaires par exemple, nous permettaient quand même d'accueillir le public. Et jusqu'à présent, bon voilà, tous les feux sont ouverts.
Donc jusque-là, tout va bien. Votre festival démarre normalement le 31 juillet. Et cette année, donc, quel est le fil rouge de ce festival ?
Bon, il y a toujours plusieurs fils rouges qui sont pas toujours apparents. C'est déjà la musique de chambre, hein, puisqu'on fait la musique de chambre et avec des formations souvent un petit peu mix, avec beaucoup de bandes, du piano, des rencontres, des répertoires un peu spéciaux. On a un petit fil rouge autour de Boleslav Martinou cette année, mais on a aussi des pièces qui sont très grand public, comme le Carnaval des animaux, bien, des concerts pour les enfants, et il y aura aussi un hommage à Maria Curcio, qui est la grande pédagogue de piano, qui a eu pour élève, bien sûr, Éric Le Sage, mais aussi Martin Aguerri, Marie-Joseph Jude. Et voilà, quelques-uns de ses anciens élèves seront là. Elle était venue au festival, je crois, en 96, pour jouer la Fantaisie de Schubert. Et voilà, nous lui rendons hommage. Elle aura 17 ans cette année. Et puis, donc, des grandes retrouvailles, et avec cette année une envie encore plus forte, je crois, de jouer, parce qu'on a été tous privés, même s'il y a quelques concerts en ce moment encore. Mais voilà, nous avons décidé de faire le festival de la manière la plus simple, telle qu'elle a été prévue, en espérant que tout aille bien.
Et on le rappelle, votre festival se tiendra du 31 juillet au 8 août 2020, donc à Salon de Provence. Merci beaucoup, Paul Meyer. On vous écoute tout de suite dans un extrait du trio pour clarinette en ré mineur de Zemlinsky, extrait de votre dernier album, Vienne 1900.
Thank you.
La musique d'Alexandre von Zemlinsky, c'était l'allegro de son trio avec clarinette en ré mineur avec le clarinettiste Paul Meyer, le violoncelliste Zvi Plesser et le pianiste Éric Lesage. Allez, comme la météo est un petit peu moyenne ce matin, en tout cas à Paris, on part retrouver le soleil en Italie. Et l'Italie, de toute façon, ça fait toujours rêver. Bon, c'est un petit peu compliqué de s'y rendre en ce moment, mais si vous écoutez France Musique ce soir à 20h, ce sera comme si. François-Xavier Chimchak présentera Iris, l'opéra méconnu du compositeur italien Pietro Mascagni, histoire d'une jeune japonaise victime de l'orgueil et de la cupidité des hommes. Une très très belle œuvre ce soir, dans une version enregistrée en 2016 à l'opéra Berlioz de Montpellier, dans le cadre du festival Radio France Occitanie Montpellier. Il y aura notamment la soprano Sonia Yoncheva, le ténor Andrea Carré. Et en attendant, eh bien, je vous propose d'écouter une autre version très belle également, celle de la soprano Renée Fleming dans le rôle d'Iris.
Morto, colore del bronzo, ebro il cielo rosso, si come sangue d'un rosso livido. E una gran spiaggia morta di grigio e nero. Una fanciulla giacea viaggiata, scarpe di membra, sporsi capelli. Thank you.
Undi Ero Piccini, extrait du deuxième acte d'Iris, l'opéra de Pietro Mascagni avec la soprano Renée Fleming, l'orchestre symphonique de Milan et le chef Marco Armiliato. Œuvre à retrouver ce soir sur France Musique dans le concert de 20h avec François-Xavier Chimchak. Ce sera avec la soprano Sonia Yoncheva dans le rôle titre. Musique Matin, le 8-9 de Charlotte Landru-Chandès. France Musique, c'est l'été. 8h40, l'heure de retrouver notre invitée, la pianiste Ludmila Berlinskaya. Bonjour Ludmila.
Bonjour Charlotte.
Alors la 8e édition de La Clé des Portes, le festival que vous co-dirigez avec le pianiste Arthur Ancel, s'ouvre ce soir dans le Loir-et-Cher. Alors comment vous vous sentez à l'approche de ce festival ?
C'est pour nous c'est très très important parce que c'est notre cher bébé qui on a créé avec un autre couple, un quatuor, monsieur et madame Germont, et ça existe déjà depuis 8 ans, c'est la 8e année, surtout que cette année pour moi c'est spécialement très important parce que le thème du festival c'est Valentin Berlinski Quatuor Borodine. Et je suis absolument reconnaissante et remercie énormément tout le monde qui a accepté avec moi cette aventure. Et voilà, donc on est hâte de commencer.
Donc on le précise, Valentin Berlinski, c'est votre père. Donc vous avez intitulé cette édition de D'Artagnan à Don Quichotte, hommage à Valentin Berlinski. Qu'est-ce qui se cache derrière ce titre ? Pourquoi D'Artagnan ? Pourquoi Don Quichotte ?
Quand Quatuor Borodine, il était fondé au début 1945, ces quatre hommes jeunes, braves, ils ont signé un papier et évidemment, ils sont appelés les quatre mousquetaires. Et leur devise, c'était... un pour tous, tous pour un. Et évidemment, mon père était D'Artagnan dans cette histoire. Quelqu'un très, très actif et puis avec beaucoup de risques. Et à la fin de sa vie, déjà, quand l'atmosphère en Russie beaucoup changé, tout est changé, papa, il voulait quand même... Il voulait pas voir... Tous ces changements, peut-être parfois négatifs pour lui, il est continué à se battre contre, disons, pas les moulins, mais oui, il était grand patriote de musique de son pays et les amis, les musiciens, lui s'appelaient Don Quichotte. C'est pour ça.
Et donc tout sera en lien avec cette figure, donc Valentin Berlinski, votre père. Et chacune des journées du festival porte d'ailleurs le nom d'une ville,
oui.
Une ville qui lui est liée.
Qui était très important pour sa vie. Et donc on fait un parcours dans notre festival, c'est-à-dire qu'on commence par sa ville natale, Irkoutsk en Sibérie. Et après on continue avec Moscou, Saint-Pétersbourg, Oldborough ou Quatuor Borodine en Angleterre, Festival de Britain, il était... résident pendant plusieurs années. Aussi Paris, évidemment, parce que Paris, il est lié aussi pour lui avec sa famille, notamment avec moi et ses petits-enfants. On va faire aussi un expo très important qui s'ouvre aujourd'hui aussi. C'est un vernissage. Exposition rare parce que c'est énormément de documents, affiches, les lettres de Shostakovich, de Svetoslav Richter, Rostropovich, etc. Donc, tout ça va être présenté au musée de Mer.
Et donc aussi, dans le cadre de ce festival, on peut lire sur le programme que vous allez échanger avec le public, notamment raconter des petites anecdotes autour de votre père. Est-ce que vous pouvez nous en donner une en avant-première pour les auditeurs?
Par exemple, quand mon père, il est décidé de acheter un violoncelle pas très grande qualité, chinois, pour mon fils, pour son petit-fils, parce que Dimitri il a commencé à jouer violoncelle. Et donc, l'idée, c'était acheter cette violoncelle à Moscou et ramener jusqu'à Paris. Le problème, à cette époque, c'est qu'on ne pouvait pas sortir les instruments sans passeport, même si c'était rien du tout comme violoncelle. Et du coup, papa, il a inventé une histoire, il a décidé qu'il va prendre cette violoncelle à la place de son Bergonzi, qu'il est toujours prenait pour ses voyages avec Quatuor Borodine, et qu'il va jouer pendant tout ce voyage sur cet instrument. Et la fin, à la fin de tout cette tournée, c'était le Paris, et donc il va laisser à mon petit-fils. Ce qui est drôle, que les membres de Quatuor Bourdine, qui connaissaient quand même par cœur le violoncelle de mon père, ils n'ont rien compris. Notamment, ils ont joué un concert à Concertgebouw Amsterdam, et c'est là où il y a un des membres de Quatuor qui découvre que finalement, c'est pas la même couleur de violoncelle, mais sauf que la sonorité était absolument pareille. Donc ça veut dire que il était capable de jouer sur n'importe quel instrument, ce qui est quand même absolument exceptionnel.
Comme quoi ça dépend vraiment de l'interprète et non pas de l'instrument.
Exactement.
Eh bien merci beaucoup Ludmila Berlinskaya, on vous retrouve donc ce soir en concert au Clos du Tilleul à Roche dans le Loir-et-Cher dans le cadre de votre festival La Clé des Portes qui dure jusqu'au 29 juillet et on va se quitter avec un extrait de l'un de vos derniers albums avec Arthur Ancel. Russian Last Romantics. Le duo de pianistes Ludmila Berlinskaya et Arthur Ancel dans la Ronde russe, opus 58 de Nikolaus Metner. On le rappelle, leur festival La Clé des Portes débute ce soir dans le Loir-et-Cher et c'est jusqu'au 29 juillet. Et on en profite aussi pour annoncer la première édition de leur autre festival, le Rungis Piano Piano Festival, entièrement dédié au répertoire pour deux pianos et quatre mains. On a le temps, c'est du 1er au 3 octobre, mais vous pouvez déjà réserver en ligne. Il est 8h52, merci d'être avec nous sur France Musique. À présent, c'est à Arcueil que je vous emmène pour vous raconter notre petite histoire hebdomadaire. Aujourd'hui, Eric Satie et les parapluies. Alors on ne sait pas vraiment si Satie avait la passion des parapluies, mais toujours est-il qu'à sa mort en 1925, chez lui, on retrouve 14 parapluies, tous identiques. Satie en avait même dressé l'inventaire, chacun avait une fonction. Il y en avait un de secours, un just in case, un malheureux, un plus solide, un qui s'envole, un jetable, un très digne, un imperméable, un que l'on peut casser, un qui nous attend, un très intimidant, un alambiqué, alors celui qui arrive je l'aime bien, un très sportif qui défend bien, et un dernier gentil, juste pour les dimanches. Et il était précisé pour chacun, tous de couleur noire. Il faut dire que dès qu'il avait un peu d'argent, Satie le dépensait dans des parapluies. Voilà une dépense originale. Alors ces parapluies sont une énigme, mais à vrai dire, un peu à l'image de leur propriétaire. Personnage fantasque, cocasse, dandy déroutant. Et déroutant, c'est peu dire, car à sa mort, ses amis, dont Georges Auric, ont trouvé un véritable taudis. Il y avait deux pianos à queue, l'un sur l'autre, une montagne de poussière, du courrier qui n'avait jamais été ouvert, et ces fameux parapluies. Tout cela était loin de l'image que Satie donnait en société. Personne ne savait à quel point il vivait dans la misère, même s'il était d'un tempérament solitaire et dépressif. Il passera les 27 dernières années de sa vie dans ce petit appartement d'Arcueil, retiré du monde. Thank you. Un extrait de Relâche, l'une des dernières œuvres d'Éric Satie avec Philippe Entremont et le Royal Philharmonic Orchestra de Londres. Pour en savoir plus sur Éric Satie, je vous invite à lire le roman de Stéphanie Calfon, Les parapluies d'Éric Satie aux éditions Joël Losfeld. En tout cas, le parapluie, on pourrait bien en avoir besoin aujourd'hui. C'est déjà la fin de notre émission, l'heure de vous donner la bonne réponse à notre jeu. C'était la réponse C, l'heureux stratagème que n'a pas écrit Mozart. Donc, si vous êtes tiré au sort parmi les gagnants, vous serez prévenu par mail prochainement et recevrez un CD du dernier album de l'ensemble Pygmalion. Un grand merci à toute l'équipe, Lionel Quentin à la réalisation, Samuel Razano et Emmanuel Rose à la technique, Margot Muller et Marie Ferdinand pour la préparation de l'émission. Samedi prochain, vous retrouvez Christophe Dillis pour la matinale. Quant à moi, je vous retrouve lundi à 9h pour une semaine d'été classique.
À réécouter sur francemusique.fr.